de reconstruction. Avec le temps, toutes les maisons ont besoin d'être entretenues. Alors on va aller voir le prophète Agée et le prophète Zacharie. Voilà. Et Agée et Zacharie sont deux collègues, puis ils sont contemporains. Non seulement ils sont contemporains, mais ils prophétisent tous les deux dans une période particulière, à la fin de la déportation à Babylone du peuple d'Israël. Alors on va aller faire une lecture déjà dans le livre d'Esdras. On fera quelques lectures comme cela. Esdras, chapitre 4 et verset 24. Les Juifs avaient commencé de rebâtir la maison de l'Éternel. Et puis les opposants, c'est écrit au début du chapitre 4 du livre d'Esdras. Esdras, chapitre 4, donc verset 1er. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel, et nous connaissons la suite du récit. Ils vont tout faire pour qu'il y ait un ordre afin que les travaux s'arrêtent. Et donc le verset 24, « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi des Perses. » Et la seconde année du règne de Darius, roi des Perses, on est à peu près en moins 520 avant Jésus-Christ. Chapitre 5 d'Esdras, verset 1er, « Agée le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs, qui était en Juda, et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shelathiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. » Amen. Deuxième année de Darius, moins 520, les ennemis d'Israël n'ont pas pu empêcher le commencement des travaux de la maison de l'Éternel, mais ils feront tout pour compliquer la continuité et la finalité de cette construction. C'est tout ce que l'ennemi de nos âmes essaiera par tous les moyens de faire, puisqu'il n'a pas pu empêcher notre conversion, alors il fera tout pour empêcher la construction, puisque lui, il a quand même compris quelque chose que nous comprenons après notre conversion. Mais comme c'est toujours la même chose, alors maintenant il est habitué, il sait que quand un chrétien se convertit, les étapes suivantes qui vont arriver, et puis la finalité, parce que toutes ces choses-là, l'Éternel les lui a dites. Donc il n'est pas plus intelligent que ça, mais comme c'est toujours la même chose qui se répète, le même schéma qui se répète, alors il sait très bien que quand il n'a pas pu empêcher la conversion de quelqu'un, il va tout faire pour qu'il y ait des bâtons dans les roues au niveau de la construction. Et ça, eh bien parfois, nous prêtons un petit peu le flanc à ce qui vient de ce monde, à ce qui vient de nos vies personnelles avant de connaître le Seigneur, parce qu'il y a encore des reliquats. Et à cause de cela, parfois nous arrêtons la continuité de la construction de la maison de l'Éternel. Et tout s'en ressent. C'est comme si nous construisions une maison. On sait très bien qu'il faut à peu près 2 ans pour que tout soit terminé. Mais certaines, 10 ans après, c'est pas fini. 20 ans après, c'est pas fini. Parfois parce qu'il y a eu de l'opposition. Parfois parce qu'il y a eu un manque de moyens, etc. Autrement dit, il y a un laps de temps pendant lequel on est capable de faire l'effort pour aller jusqu'au bout. Mais quand ça dure trop, et on l'a vu dans certaines églises, nous, par la grâce de Dieu, on a mis 2 ans. Mais c'était bien que ça se termine aussi. Mais d'autres églises ont mis 5 ans. D'autres ont mis 10 ans. Et à la fin, mais c'est une poignée de figues qui travaillent sur le chantier parce qu'on n'y arrive plus, parce que tout le monde est fatigué. Et quand on s'est arrêté, on le sait tous, le plus dur, c'est de repartir dans tous les domaines, même dans une marche en montagne. Quand on s'arrête, ça fait du bien, mais on a beaucoup de mal après à repartir. Alors ils ont commencé à bâtir la maison de l'Éternel. Il y a eu de l'opposition venant des ennemis de Juda et du peuple de Dieu. Et à cause de cette opposition, ils se sont arrêtés. Et quand on s'arrête, on est les premiers à en pâtir, parce que l'achèvement n'est pas fait. On n'est pas arrivé au bout. Ça veut dire qu'il y a en nous des choses qui restent encore de ce monde et mélangées à des choses qui viennent de Dieu. Zacharie, son nom signifie l'Éternel s'est souvenu. Et âgé vient d'une expression « en fait ». Alors, comme on va parler de Zacharie, on va rester sur « l'Éternel s'est souvenu ». Et l'Éternel s'est souvenu qu'il a touché nos cœurs par l'action de son esprit. L'Éternel se souvient que nous nous sommes engagés à marcher avec lui, à le suivre. Nous lui avons donné notre cœur. Il se souvient de cela. L'Éternel se souvient des promesses qu'il a faites à notre égard, parce que s'il y a des choses qu'il oublie, il y en a, il ne les oublie pas. Les projets qu'il a formés sur nous, les vœux qu'il a à notre égard de paix, de bonheur, de réussite, demeurent. Et ils devront se réaliser dans nos vies parce que Dieu le veut. Alors l'Éternel se souvient, c'est peut-être le message de ce matin, l'Éternel se souvient de ce qu'il a voulu pour nos vies, à chacun, chacune d'entre nous, individuellement. Et il nous dit aux uns et aux autres qui avons peut-être baissé un peu les bras dans la construction de notre propre maison spirituelle, il nous dit, bien, reprenez l'ouvrage. Et on va le voir au travers du livre de Zacharie. Il y a 14 chapitres, donc il y aura 14 points, mais ils ne seront pas très longs chacun. Mais on va quand même les regarder. On va au chapitre 1er. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie et elle avait été adressée à Agé. Et rappelez-vous la parole du prophète Agé, « Est-ce le temps d'habiter vos demeures lambrissées quand ma maison est détruite ?» Et le Seigneur pourrait nous dire d'une certaine manière, ma maison sur la terre, ce n'est pas les murs, c'est vous. Il est dans notre cœur. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alors nous devrions prendre encore plus soin de la maison de Dieu que de la nôtre. La maison de Dieu, c'est-à-dire sa place dans nos vies, devrait être l'objet de nos efforts plus que notre propre maison. Et pourtant, notre propre maison en demande. Mais ça devrait passer au second rang. Donc on arrive au verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu t'es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Et ça commence comme ça dans la bouche du prophète, venant de l'ange de l'Éternel. Je suis ému d'une grande jalousie et je reviens. Je reviens pour que cette maison soit bâtie et qu'elle soit à la gloire de mon nom et que de Jérusalem, ce soit quelque chose dont on parle avec envie. On va au chapitre 2, au verset 3. Et voici l'ange qui me parlait s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Nous ne sommes pas peu de choses, nous ne sommes pas rien, nous sommes entourés de la puissance de Dieu pour nous protéger. Et Dieu veut faire habiter sa gloire au milieu de Jérusalem, dans nos vies. Et une multitude d'hommes, Jérusalem sera une ville ouverte à cause d'une multitude d'hommes. Dieu veut faire de nous une maison ouverte, accueillante. Ce n'était peut-être pas notre projet de construction initial, mais c'est celui que Dieu veut faire. Il veut faire de nous véritablement une source de bénédiction et qu'on ouvre la fenêtre, la porte d'entrée, voire le garage, la bénédiction va sortir de cette maison. Et on ne devrait rien entendre d'autre sortir de cette maison. Si vous avez des voisins, de temps en temps, vous entendez des conversations de voisins. Parfois, c'est intéressant dans un sens, parfois, il vaudrait mieux ne pas l'avoir entendu. Mais de la maison de Dieu sur la terre, qu'on ouvre la fenêtre, la porte, le garage ou quoi que ce soit, de cette maison ne devraient sortir que des paroles extraordinaires, des paroles de grâce et de bénédiction. Je serai la gloire au milieu d'elle. Chapitre 3, versets 1 à 5, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Extraordinaire. Notre situation est réglée dans le ciel. Alors juste une petite parenthèse. Comme dans le livre de Job, on voit Satan qui se tient devant le trône de Dieu pour accuser. Mais depuis l'œuvre de la croix, c'est fini. Les dominations et les autorités ont été dépouillées. Celui qui était l'accusateur de nos frères a été vaincu. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, au moment où Christ a donné sa vie sur la croix, la victoire est acquise, la victoire est accomplie et il est chassé. Notre situation devant Dieu pour l'éternité est réglée et l'ange de l'Éternel est là. Celui qui est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde sur la terre pour recevoir le châtiment qui est le nôtre finalement, qui nous donne la paix. Mais maintenant, il est l'ange de l'Éternel. Et devant le trône de Dieu, il dit, pardonnez, 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 effacez, on n'en parle plus, je ne veux plus rien entendre concernant celui-ci, concernant celle-là, et puis cet autre, j'ai tout accompli pour le salut de son âme, le pardon de ses péchés. Jérusalem en avait failli t'écraser, maison de Dieu, frère, sœur, le monde a failli t'écraser, et peut-être écrasé toi-même par le poids de tes propres accusations et l'ennemi de nos âmes qui en rajoutait. Mais cette situation-là, c'est terminé. C'est fini, parce qu'il a tout accompli. L'ange de l'Éternel est là. Plus personne n'ouvre la bouche devant l'ange de l'Éternel, parce que lui, il fait fermer la bouche, même à Satan, l'accusateur de nos frères. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. On va au chapitre 4. Et vous allez reconnaître cette fameuse parole de l'Écriture. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. On va jusqu'au verset 10. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous donner la force de reprendre le cours de la construction de notre vie spirituelle. Et on va y arriver. Voilà, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Vous voulez, chacun, chacune d'entre nous veut que des choses encore changent dans notre vie. Il donne le vouloir et le faire. Et par son esprit, il va nous donner la capacité que ces choses-là changent. Parce que nous sommes en devenir. Et la finalité de ce devenir n'est rien d'autre que d'arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ, autrement dit, un chef-d'œuvre. Chacune et chacun d'entre nous a pour destinée d'être un chef-d'œuvre, et pas un chef-d'œuvre en péril, un chef-d'œuvre terminé, avec la signature du Maître. Voilà. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une volonté arrêtée. Dieu est déterminé, c'est pour cela qu'il nous a tout donné par sa parole et par son esprit. Nous avons tout pour devenir cela, pour arriver à cela. Mais ce n'est pas par puissance et par force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. On va au chapitre 6, versets 12 à 13. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera de son lieu. Et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union règnera entre l'un et l'autre. Un homme viendra dont le nom est Germe et germera de son lieu et il bâtira. Et il bâtira. Ce n'est rien d'autre que la conception en nous de Christ. Naître de nouveau, c'est naître conformément au concept, si on peut le dire de cette manière-là, ce que Dieu avait voulu au départ, c'est que nous soyons semblables à Christ. Nous avons déchu, nous sommes déchus par rapport à cela. Alors il nous donne l'extraordinaire possibilité de naître de nouveau, et non pas de naître de nouveau comme une seconde chance, en essayant de faire mieux que la première fois, parce que sur cette base-là, alors là c'est sans fin. Il faudra une troisième chance, il faudra une quatrième chance, etc. Non, c'est la deuxième chance, la vraie, la bonne, la seule, naître d'en haut, afin que Christ soit formé en nous. Il faut qu'il croisse, que je diminue. Celui qui est né de Dieu, le germe, il ne pêche plus. Il est né de Dieu. On va au chapitre 7, versets 4 à 5. La parole de l'Éternel des armées me fit adresser en ces mots. Dis à tout le peuple du pays, au sacrificateur, quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentour, et que le midi et la plaine étaient habités. Amen. Quand nous avons jeûné, et le vrai jeûne, dira le prophète Ésaïe, celui auquel l'Éternel prend plaisir n'est pas de s'abstenir de nourriture, mais d'avoir un tout autre comportement dans notre vie. C'est le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Autrement dit, quand nous jeûnons, jeûnons-nous pour nous, ou jeûnons-nous pour lui? Eh bien, jusqu'à démonstration inverse. Quand nous jeûnons, nous devrions jeûner pour lui et pas pour nous. Et trop souvent, nous jeûnons pour nous et pas pour lui. Nous jeûnons quand ça ne va pas, nous jeûnons quand nous sommes devant une difficulté, quelque chose qui nous dépasse. Nous jeûnons parce qu'on sent qu'on n'y arrive pas, parce que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alors on est devant un problème qu'il faut régler, alors on met tous les moyens en œuvre pour arriver à régler ce problème. Et pourtant, ce n'est pas la principale base du jeûne. Jeûner, c'est passer du temps devant Dieu, point. Tout court. Rien d'autre. Pas pour notre liste de besoins, de problèmes, de situations à régler. Pour passer du temps devant Dieu. Voilà. Et voilà comment notre maison spirituelle va se reconstruire. Ici-bas, on va vous dire, pour prendre des forces, mangez bien comme il faut, on va vous donner le menu, et puis les nutritionnistes vont exactement vous dire pourquoi ça. Eh bien, si vous voulez spirituellement être fort, jeûnez. C'est l'inverse. Parce qu'on va prendre une nourriture qui est spirituelle. Donc par rapport à la nourriture humaine, ça semble être l'inverse. Jeûner plutôt que de manger. Mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et je vais la manger pendant un temps de jeûne. Ça veut dire que sur la table, quand je jeûne, il y a tout ce dont j'ai besoin pour nourrir mon âme. La parole de Dieu. Combien de fois avons-nous jeûné comme ça? Parole de Dieu fermée. Jeûner, parole de Dieu ouverte. Qui fait un bon repas à l'assiette à l'envers? Personne. Alors, nous, c'est pareil. Vous voulez jeûner cette semaine? Commencez par manger. Vous nourrir de la parole de Dieu. Faites une lecture, faites deux lectures, faites trois lectures, et puis priez. Lundi, et si vous voulez le menu de la semaine, eh bien, vous n'avez que l'embarras du choix. Hein. Quand vous allez au restaurant, tout un tas de choses que vous pouvez choisir. Eh bien, vous pouvez lundi manger dans la Genèse. Vous pouvez mardi manger dans l'évangile de Matthieu. Jeudi, c'est le gros repas, vous mangez dans l'Apocalypse. Là, vous allez vous faire les dents dans l'Apocalypse. Et ça fait du bien, je dis en plaisantant, mais on a jeûné l'assiette à l'envers, on a jeûné Bible fermée. Que s'est-il passé au bout d'un moment dans ce temps de prière et de jeûne? On a tourné en rond. On a tourné en rond, tout simplement. Et quelqu'un, une fois, m'a dit, mais moi, je n'arrive pas à jeûner parce que je suis diabétique. J'ai dit, mais où c'est écrit que jeûner, c'est rien manger du tout? Alors, vous jeûnez, passez du temps devant Dieu. Et si il vous faut une biscotte pour arriver à tenir, mangez une biscotte. Jamais le Seigneur vous fera le reproche pour la biscotte. Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est le jeûne auquel il prend plaisir. Et cette parole de l'Éternel a été proclamée par les prophètes, ce n'est pas d'hier. Seulement, ils ne l'ont pas mise en application. Et la maison de Dieu ne s'est pas construite. On va au chapitre 8, verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles, et de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, et où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense, et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient, car ainsi parle l'Éternel des armées. Écoutez bien la suite. Car j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi, je reviens en arrière. Et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda, ne craignez pas. Voilà, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Je reviens en arrière. Alors, il y a certains théologiens, ça, ils n'aiment pas. Parce qu'ils sont tellement dans les hautes sphères de la réflexion que si Dieu revient en arrière, ça veut dire qu'il s'est trompé. Dieu peut-il se tromper? Alors là, vous écrivez un livre sans fin. Voilà. Eh bien, écoutons les choses, prenons-les avec simplicité, telles qu'elles sont écrites. Je reviens en arrière. Dieu est capable de changer d'avis. Là, ça nous met à mal, hein. Parce que parfois, nous, quand on a pris une décision, advienne que pourra. C'est comme ça. Ah ben oui. Et Dieu me dit, moi, je suis capable de revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est faire preuve d'humilité. C'est faire preuve de simplicité. C'est pas admettre qu'on s'est trompé, c'est dire, je change d'avis. Pour telle et telle et telle raison, puis je vais peut-être pas même aller développer, je change d'avis, je change de position. Quelle grâce que Dieu soit revenu en arrière, souvent pour nous. Hein. Je reviens en arrière. Le père du fils prodigue est revenu en lui-même. Le fils est rentré en lui-même, mais le père, il a dû revenir en lui-même. Parce que humainement parlant, il était peut-être allé dans un sens, mais ce sens-là, aller à la confrontation avec son fils, c'était réglé comme du papier à musique. Alors il doit revenir en arrière, il doit revenir sur lui-même pour dire à son fils ce qu'il dit quand il revient. À tel point que le fils aîné, lui, il est décontenancé. De voir cela. Voilà. Je résolus en ce jour de faire du bien. Et je suis revenu en arrière. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire du bien? Alors revenez en arrière sur certaines positions pour pouvoir faire du bien. Parce que c'est ce que Dieu veut, que sa maison soit une maison de bénédiction. Voilà. Attention de Jérusalem, ça bénit. On en a parlé, je crois que c'était mardi soir, soyez bénis de la part de l'Éternel. C'est ce que Dieu veut. Alors on va au chapitre 9. Et on reconnaît des paroles, verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il est humble, il vient à toi. » Et cela, c'est la destinée de ma vie, je vais rencontrer le Seigneur. Et le moment, quand ce moment viendra, il faut que je sois comme lui. Hein. Parce qu'il a tout fait pour que je ne sois plus comme j'étais et que je devienne comme lui. Et ce que le Seigneur voudrait, c'est pouvoir dire, alors ça va être répétitif, mais tant mieux si c'était le cas, bon et fidèle serviteur, rentre. Suivant, bon et fidèle serviteur, entre. Mais tu dis toujours la même chose, Seigneur. Oui, mais c'est la réussite de ma vie. J'ai réussi à faire d'eux des bons et fidèles serviteurs. Bon et fidèle serviteur. Alors, on peut le mettre au féminin, hein. Bon et fidèle servante aussi, parce qu'il ne faut pas dire que c'est réservé qu'aux uns. On va au chapitre 10, verset 1er. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et ça, c'est la bénédiction de Dieu locale. Précise. Il est capable de donner la bénédiction dans mon champ et pas dans celui du voisin. Pourquoi ? Ben parce que moi, je lui dis, Seigneur, envoie la pluie, je vais être béni de toi. Si mon voisin ne le fait pas, eh ben, il verra la bénédiction tomber à côté. Si mon voisin le fait, et la bénédiction tombera aussi chez lui. Alors la bénédiction, nous la voulons pour quand, pour où et pour qui ? Que chacun demande la pluie de l'Éternel. Il produira des éclairs, il enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. J'aurai ma nourriture spirituelle, j'aurai les réponses à mes situations, même financières, parce que l'herbe dans son champ, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire l'abondance, ça veut dire que Dieu pourvoit aux besoins de ma vie de tous les jours. Moi, je m'occupe de construire la maison pour lui, là, et lui va s'occuper du reste. On va au chapitre 11 et on va terminer. Verset 7. Je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, c'était nous, assurément les plus misérables du troupeau, je pris deux houlettes. J'appelai l'une grâce et l'autre union. Et je fis paître les brebis. La houlette n'est pas le bâton. Le bâton, c'est pour le loup, c'est pour celui qui vient pour faire mal à la brebis. La houlette, c'est pour attraper la brebis. Et quand le Seigneur me reprend, c'est soit avec grâce, soit avec union, pour me ramener à lui. Combien de fois nous avons utilisé d'autres houlettes ? Alors, toutes les autres houlettes sur lesquelles il n'y a pas marqué grâce et union, on les brise, on les casse, on ne les utilise plus. La houlette que nous sommes amenés à manipuler, c'est grâce et union. Grâce envers nous et union, parce qu'il ramène la brebis vers le troupeau, parce qu'elle partait toute seule, voilà, la brebis. C'est un petit peu parfois ce que nous faisons, nous partons tout seuls, avec nos idées, nos pensées, etc. Alors que le Seigneur veut construire un peuple et ramener les brebis vers la maison de l'Éternel. Chapitre 12, verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Verset 10. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Un esprit de grâce et de supplication. C'est cette dimension spirituelle que Dieu veut mettre dans nos vies. C'est lui qui nous a formés et qui nous a donné une dimension spirituelle. Mais nous sommes partis de travers. Et il veut nous donner maintenant de son esprit. Et son esprit, c'est grâce. Voilà. Chapitre 13. Verset 1er, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'iniquité. La source du salut, c'est la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes qui a été manifestée. Et le dernier point, chapitre 14, et c'est là où il faut être conscient que toute maison qui a commencé d'être construite doit se terminer, comme les maisons d'ici-bas, où vous avez quand même un délai, où vous ne pouvez pas trop longtemps interrompre les travaux, sinon il faudra faire un permis de construire, et puis vous avez un délai imposé pour terminer. Eh bien, nous, le délai, c'est il revient. Il faut que la maison soit terminée. Voici le jour de l'Éternel arrive. Chapitre 14, verset 1er. Voici le jour de l'Éternel arrive. Verset 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Verset 20, en ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Et la maison est terminée. sainteté à l'Éternel. C'est encore plus fort, encore plus grand que ce que peut-être nous avons mis dans nos maisons au travers de versets bibliques, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut les enlever. Mais ça veut dire que l'achèvement de notre maison, c'est plus que ça. C'est sainteté à l'Éternel. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Que son nom soit béni.